Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon et Rosalie Suc. Réalisée ce matin par Benjamin Hu et mise en onde par Jacques Hubert. Nouvelle série consacrée aux confins de l'Europe avant de parler des pays baltes, puis de l'Europe centrale alors qu'Emmanuel Macron est en visite en Pologne, place à une zone au cœur de la région et pourtant toujours largement à la marge de l'Union Européenne, les Balkans. Balkans, l'élargissement à bout de souffle, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous poursuivrons nos efforts pour la construction d'une Albanie européenne, car il n'y a pas d'autre alternative. Une grande injustice a été commise à Bruxelles. Les Européens n'ont pas accordé ce qu'ils avaient promis, alors que nous avons procédé aux réformes demandées. Nous sommes victimes d'une erreur historique, je suis déçu et en colère.
Le Conseil européen, dont sa majorité aurait bien voulu, mais il y avait certains États membres qui n'étaient pas encore prêts. C'est une lourde erreur historique, une lourde erreur historique.
Ça ne marche pas bien à 27, comment on explique que ça marche mieux à 28, 29, 30, 32? Deuxième point, les mêmes qui nous disent, la main sur le cœur, il faut élargir, nous disent, je veux un budget à 1%. Bah, quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine.
Voilà, on entendait Edi Rama, Premier ministre albanais, Zoran Zaev, Premier ministre de la Macédoine du Nord. On entendait également Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, en tout cas l'ancien président, c'était le cas en octobre dernier. Et puis également, bien sûr, Emmanuel Macron, avec cette image de la tartine que tout le monde n'a pas compris. Un petit peu. Deux fois de suite, en juillet et en octobre, le président français Emmanuel Macron s'est opposé à l'ouverture de négociations en vue d'une adhésion à l'Union européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Une position qu'il a notamment expliquée par la nécessaire réforme du processus d'élargissement, indispensable selon lui avant l'acceptation de nouvelles candidatures. La Commission européenne doit d'ailleurs présenter une feuille de route sur une nouvelle méthodologie en matière d'adhésion. Mais au-delà de la question de la méthode des négociations, c'est l'idée même d'élargissement comme horizon naturel de la construction européenne qui se trouve remise en cause. Et ce sont les Balkans à qui l'Europe avait laissé entendre qu'ils avaient vocation à rejoindre la famille européenne lors du sommet de Thessalonique en 2003. Eh bien, ce sont les Balkans qui en font les frais. Réformer le processus d'adhésion à l'Union européenne suffira-t-il à résoudre la crise de l'élargissement? Dans quelle mesure celle-ci traduit-elle une crise de l'Union elle-même? Et puis, quels sont les obstacles internes aux Balkans occidentaux qui rendent leur intégration encore incertaine? D'ailleurs, que reste-t-il de l'envie d'Europe dans leur société civile? Quels sont les risques aussi de voir d'autres puissances accroître leur influence dans les Balkans, la Russie, les États-Unis ou encore la Chine ou la Turquie? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jean-Arnaud de Reims. Bonjour Jean-Arnaud de Reims.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, vous êtes historien, vous êtes rédacteur en chef du Courrier des Balkans et puis également l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date que j'ai sous les yeux, vous avez coécrit avec Laurent Gélin, Là où se mêlent les eaux, sous-titré Des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins, c'était aux éditions La Découverte. Avec nous, en duplex de Chambéry, Pierre Mirel, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes-vous ancien diplomate, l'ancien directeur à la commission chargée des relations avec les Balkans. Vous l'avez été de 2006 à 2013 et puis vous êtes également enseignant à Sciences Po. Je vais commencer peut-être avec vous, Pierre Mirel. Commençons par Chambéry. On a entendu cette position d'Emmanuel Macron, position, disons, d'intransigeance vis-à-vis de cette perspective d'intégration des pays des Balkans, puisqu'il a stoppé net l'ouverture des négociations à l'Albanie et à la Macédoine du Nord. Vous aviez publié une tribune dans Le Monde, en octobre dernier, justement à ce moment-là, et vous aviez dit que le refus d'Emmanuel Macron, c'était plus qu'une erreur, une faute. Pourquoi, Pierre Mirel?
La raison principale, c'est que l'Union avait promis, en particulier à la Macédoine du Nord, d'ouvrir les négociations d'adhésion sous deux conditions. Avoir un accord avec la Grèce sur le nom du pays, qui bloquait les relations depuis plus de 20 ans, d'une part, et d'autre part, une réforme dans la lutte contre la corruption. La Macédoine a signé un accord avec la Grèce, elle a rempli donc son contrat, elle a créé un procureur spécial contre la corruption, et l'Union européenne à deux reprises, même presque trois, lui dit bah non, c'est pas suffisant. Et donc ça a été un choc. Et un choc d'autant plus grand que dans les Balkans, on a apprécié en quelque sorte le retour de la France, hein, qui avait disparu des écrans sous les présidences Sarkozy et Hollande. On a apprécié le retour de la France et le choc a été d'autant plus grand.
On va regarder, évidemment, on va s'intéresser tout à l'heure au choc du côté des Balkans, mais regardons d'abord du côté de l'Union européenne et en particulier de la France. Jarno de Reims, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron est frileux à l'idée d'ouvrir les perspectives d'adhésion à l'Albanie et la Macédoine du Nord? Le problème, c'est quoi? C'est l'intégration des Balkans ou c'est l'intégration tout court? L'élargissement tout court?
Alors écoutez, c'est des questions compliquées, je vais vous avouer que j'ai pas vraiment les réponses. Je crois que tout le monde a été très surpris par cette position forte, répétée d'Emmanuel Macron. Et je partage largement l'avis de Pierre Mirel, c'est pas seulement une erreur, c'est véritablement une faute. Par rapport aux Balkans, il y a une promesse, un engagement qui remonte à 2003, donc ça fera bientôt 20 ans, enfin en tout cas 17 ans au mois de juin. C'est long, c'est très très long, pas grand chose n'a bougé durant cette période. Mais au-delà des Balkans, je crois quand même qu'il faut rappeler que Emmanuel Macron a été élu sur un programme pro-européen. Il se présentait comme étant le candidat de l'approfondissement du projet européen. Et il fait le choix de jouer, de prendre le rôle du bad guy, de celui qui brusquement est le méchant, le mauvais, qui dit non à tout le monde, qui dit non notamment aux Allemands qui étaient pour une relance du processus d'élargissement. Et cela dans un moment très particulier tout de même, en plein contexte de Brexit. Donc c'est-à-dire d'un côté, il y a la réalité du Brexit et de l'autre, au lieu d'essayer tant bien que mal de relancer une dynamique politique, on met un veto, un niet absolu. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Je n'arrive pas à croire que cela puisse s'expliquer par des raisons de politique intérieure française, tout simplement parce que ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, ça ne veut dire en rien que ces deux pays vont rentrer demain, ça ne présage en rien d'une adhésion rapide de ces pays à l'Union. C'était un geste politique à destination de ces pays-là. C'était aussi reprendre la dynamique, pour le coup, que l'Allemagne et Angela Merkel avaient essayé d'impulser depuis déjà quelques années, avec la dynamique de ce qu'on appelait le sommet de Berlin, donc de compenser le blocage de l'intégration qui avait déjà été acté, il faut le rappeler, par Jean-Claude Juncker lors de son entrée en fonction en 2014. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre la position d'Emmanuel Macron, pour être honnête.
En même temps, Pierre Mirel, je pourrais reprendre l'argument de Jarno de Reims et l'utiliser pour dire l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une période particulière qui est le Brexit. Alors maintenant, il est effectivement effectif, ce Brexit, sauf que tout reste à faire, puisque on ne sait rien, ou quasi, du futur de la relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Alors, est-ce que précisément le Brexit, ce moment d'incertitude, ne justifie pas que l'on fasse un peu, que l'on se concentre sur ce dossier avant d'en ouvrir un autre, Pierre Mirel?
Non, moi je suis exactement comme Jean-Arnaud Derrins le disait, ouvrir des négociations d'adhésion, ça n'est pas inclure, comment dire, le pays immédiatement, quelques mois, quelques années après, c'est un processus qui va être long, et c'est une promesse qui a été faite il y a 17 ans. Ceci dit, sur le fond, le président Macron n'a pas tort. Le processus actuel de négociation, il est assez obscur, il n'est pas très transparent, puis il fonctionne pas très bien.
Qu'est-ce qui pose problème avec ce processus?
Mais parce qu'on continue à utiliser une méthode qui a marché pendant les 40 années précédentes, notamment avec l'Europe centrale, et on l'a plaqué finalement sur les Balkans, qui sont dans une situation totalement différente. Et on continue à raisonner comme avec le rêve de 2003, lorsque, après la chute du mur de Berlin, on pensait que voilà, démocratie libérale, économie de marché, tout cela allait rayonner, ruisseler en quelque sorte sur le continent européen et tout serait parfait. Et je crois qu'on a fait une grave erreur avec les Balkans. On aurait dû mettre l'économie d'abord, un sérieux paquet d'assistance financière économique, et attacher à ce paquet de certaines réformes. On a fait l'inverse. Et on se trouve avec des pays où il y a une crise démographique terrible, crise économique au sens d'un manque d'investissement, une émigration majeure. Donc il y a un problème sérieux. Et donc d'autres en profitent dans ces conditions, la Chine notamment. Mais donc sur le fond, moi je pense que le président Macron a raison, il faut réformer ce processus. C'est la méthode qui est contestable. Moi j'ai été choqué par la méthode. Parce que quand on veut... C'est classique, c'est courant. Quand un État membre a des difficultés, il peut très bien, et ça pratique régulièrement, dire « je suis d'accord sur le principe de l'ouverture des négociations, mais je demande, oui, en l'occurrence à la Commission, de faire une proposition.
Oui, » j'entends.
Mais pas l'inverse.
Jean-Arnaud Derrins, sur cette procédure d'élargissement actuelle, sur peut-être les changements à venir. Il y a eu quelques propositions qui ont été faites de la part de la France. Aujourd'hui, on a une procédure sur 35 chapitres. On veut en introduire seulement 7. Alors on dit que ça sera une nouvelle procédure concrète, graduelle, rigoureuse. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, mais sur cette nécessité de réformer ce processus. Et puis, il y a quand même un élément qui est important qu'il faut introduire, c'est que ce que souhaite Emmanuel Macron, c'est qu'on introduise dans la procédure le principe de réversibilité. C'est-à-dire qu'on peut avancer, mais on peut aussi reculer sur le chemin de l'intégration.
Oui, c'est le principe du jeu de loi, une case en avant, deux cases en arrière. Bon, je crois pas que ça soit très très sérieux pour être honnête. De toute façon, ces propositions sont les propositions qu'a faites la France, qui ne sont pour l'instant pas encore du tout partagées par les partenaires européens de la France. Je crois que du côté français, il y a une petite tendance récente à penser qu'il suffit que Paris dise quelque chose pour que ça devienne la position de l'Europe. Il faudrait qu'Emmanuel Macron comprenne que ça se passe pas tout à fait comme ça, que le monde est un tout petit peu plus complexe que cela, et notamment le monde européen.
Sauf que, pardon, la Commission va faire une proposition à partir de l'hypothèse formulée par la France.
Oui, ça sera une proposition retravaillée qui devrait être discutée par les autres pays. On verra bien ce qui sortira.
Mais donc, c'est pas sans effet.
Bien évidemment, la France est un des, comme tous les États membres de l'Union européenne, la France peut faire des propositions. Mais enfin, tout le monde peut faire des propositions. Sur le fond, je partage entièrement l'analyse de Pierre Mirel. La grande erreur, c'était cette illusion de croire qu'effectivement le ruissellement libéral allait tout naturellement s'imposer à toute l'Europe. Là encore, le monde est plus complexe que cela. Entre temps, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés. Il y a eu notamment la crise mondiale de 2008, et ça ne marche pas. Le point qui est important, c'est pas trop dans le processus d'adhésion, c'est surtout le fait qu'une fois qu'un pays rentre dans l'Union européenne, il peut faire ce qu'il veut. Et ça, on le voit très bien aujourd'hui avec la Pologne, avec la Hongrie. J'ai envie de citer aussi d'autres exemples de violations évidentes des règles européennes. On peut quand même penser à l'Espagne, où il y a des prisonniers politiques sans que personne ne dise un mot. Et les dirigeants catalans, on peut penser ce qu'on veut d'eux, ce sont des prisonniers politiques et rien d'autre. Bien évidemment, il y a la Hongrie de Monsieur Orban. Et dans tous les cas, l'Union européenne est totalement démunie. On l'a bien vu à l'automne dernier avec le vote de l'article 5 par rapport à la Hongrie. Concrètement, ça ne débouche sur rien. Prenez l'exemple dans la région des trois pays qui ont le plus récemment rejoint l'Union européenne, c'est la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie. Dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, on a une corruption structurelle, systémique, aussi importante dans les deux pays. D'ailleurs, pour le coup, on parle plus souvent de la Roumanie, mais cette corruption est tout aussi flagrante en Bulgarie, touchant directement l'entourage du président Borisov. Et là, l'Union européenne ne peut rigoureusement rien faire, alors qu'on est clairement très loin de ce que l'on suppose être les règles de bon fonctionnement européen. Dans le cas de la Croatie, les choses ont un petit peu évolué, mais on a quand même eu, il y a quelques années, un gouvernement qui pratiquait des politiques ultra-droitières, qui, là aussi, étaient hors des clous de ce qui devrait constituer le socle commun des valeurs européennes.
Et est-ce que l'intégration à l'Union européenne a permis à la Croatie d'asseoir une démocratie solide? Je veux dire, si non. On regarde les effets politiques de l'intégration sur la Croatie.
Non, justement, c'est bien ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, tout le processus d'intégration s'est transformé en une sorte de recette technique. Il y a des techniques qu'il faut respecter. Et il y a aussi des éléments de langage qu'il faut apprendre à tenir. Mais ça, tout le monde peut apprendre le bon discours et tenir le bon discours aux bonnes oreilles, au bon moment. Moi, j'ai discuté plusieurs reprises avec des députés, par exemple croates du HDZ, qui disaient, voilà, on a obtenu tous nos objectifs. On a gagné la guerre contre les Serbes, on a fait l'indépendance, on a largement vidé le pays de sa population serbe, on est rentré dans l'Union européenne, maintenant, l'heure est venue de la révolution nationale. On va créer une vraie Croatie, purement croate, catholique, sans militants LGBT, sans féministes, sans serbes naturellement, et sans toutes les autres espèces possibles d'enquiquineurs. Et par rapport à ce discours-là, il n'y a aucun instrument institutionnel de blocage, de dire non, c'est pas ça, l'intégration européenne. La Croatie est dans l'Union pour le meilleur et pour le pire.
Ça veut donc bien dire que l'intégration telle qu'elle s'est réalisée n'a pas été aussi pertinente qu'on aurait pu le souhaiter et que donc des évolutions sont souhaitables.
C'est toute la dimension performative du processus d'intégration qui est aujourd'hui remise en cause, qui clairement ne fonctionne pas. Et alors, vous prenez l'exemple des pays candidats aujourd'hui des Balkans occidentaux, on a ce cas quand même très particulier. Dans tous les pays, ou presque, nous avons des dirigeants qui, comme Aleksandar Vučić en Serbie, étaient il y a encore 10 ans de farouches opposants du projet européen, qui sont devenus européens par la grâce du Saint-Esprit. Je sais pas, ils ont vu la Vierge avec des étoiles sur fond bleu un beau jour, qui du jour au lendemain sont devenus pro-européens, mais qui continuent à avoir toujours les mêmes convictions politiques, naturellement, les mêmes pratiques de pouvoir, c'est-à-dire des régimes de plus en plus corrompus, de plus en plus autoritaires, de plus en plus népotistes. Et en disant ça, je pense bien sûr à la Serbie, mais également au Monténégro, mais également à l'Albanie des Dirama, où il y a de très très graves problèmes de criminalité organisée qui se posent, et de collusion, je veux dire, entre l'État et ses réseaux criminels. Ces dirigeants-là, pour autant, se disent très 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 pro-européens. Et le problème, et là-dessus Emmanuel Macron ne changera rien, bien au contraire, le problème c'est qu'on se contente de ce discours de ces dirigeants-là qui disent « oui, je suis pro-européen, ah c'est bien, parfait, comme c'est admirable, continuez mon cher ami ». Pourquoi ? Il faut quand même se poser la question, mais pourquoi l'Union européenne est dans cette acceptation de ce qui est totalement inacceptable ? Pour une raison simple, c'est que l'Union européenne reste toujours, par rapport aux Balkans, accrochée à un seul credo, un seul mantra, celui d'une stabilité définie à minima, c'est-à-dire l'absence de guerre. Et pour le coup, les autocrates, les anciens fauteurs de guerre, ou peut-être les fauteurs de guerre de demain, sont les mieux à même de garantir la stabilité. Si vous voulez que rien ne bouge, vous faites un pacte avec les méchants caïds, pas avec les gentils. Et c'est ce que fait l'Union européenne, et c'est ce que continue à faire Emmanuel Macron.
Pierre Mirel, est-ce que vous partagez cette vision ? Je rappelle que les 6 pays des Balkans que mentionnait Jean-Arnaud Derain, ce sont donc la Serbie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous partagez ce constat ? Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu les choses sur le long terme, juin 2003, l'Union européenne fait ce grand sommet à Thessalonique et explique que tous ces pays des Balkans ont vocation un jour à rentrer dans l'Union européenne. On renvoie régulièrement ce message. 2018, il y a un nouveau plan d'action justement de la Commission qui est censé relancer ce processus d'élargissement et rien ne vient. Alors c'est bien qu'il y a un problème structurel avec ces pays, Pierre Mirel.
Oui, moi je partage totalement ce que Jean-Arnaud vient de dire. Non seulement je partage, mais je trouve que la situation a empiré depuis 2 ans, 3 ans. Par exemple en Croatie, que vous citiez, il y a une sorte de réécriture de l'histoire, y compris la Seconde Guerre mondiale. On réhabilite des criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale, condamnés comme tels. Donc la situation est plus mauvaise depuis 2 ou 3 ans qu'elle n'a été auparavant. Et je crois qu'encore une fois, l'erreur, et Jean-Arnaud a tout à fait raison de le dire, de l'Union, c'est de s'être contenté jusqu'à maintenant des bonnes paroles, des engagements des pays qui, tous les 6 mois, tel ou tel sommet, signent des déclarations, des engagements très forts pour les réformes, etc. Et finalement, n'en font absolument rien.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Alors, moi, j'ai proposé, je pense qu'encore une fois, si on regarde la situation économique qui est dramatique, l'émigration très forte, les jeunes qui partent, etc., je crois que le pays, enfin la région, a besoin d'un véritable plan économique recentré sur les investissements, sur l'amélioration des services de santé, des services sociaux, etc., retourner sur le citoyen et pas les leaders, et attacher des réformes à l'aide économique. Vous faites des réformes... vous faites les réformes qui sont demandées dans la justice, dans ceci, cela, eh bien vous aurez davantage. Le principe de plus pour plus. Mais recentrer l'action sur l'économie et attacher les réformes à l'économie.
Jean-Arnaud Derain, pourquoi finalement on ne fait pas comme ça ? Peut-être qu'on a un début de réponse quand on lit l'interview que vous aviez donnée dans la revue Projet, où vous expliquiez que les pays des Balkans avaient cet avantage quand même pour l'Europe, qu'ils étaient un formidable vivier pour de la main-d'œuvre très bon marché. Je vous cite, les gens des Balkans constituent une main-d'œuvre idéale, bien formée, facilement intégrable, ils servent de variable d'ajustement sur les chaînes de montage. Est-ce que c'est peut-être aussi l'une des raisons qui explique cette frilosité européenne, c'est-à-dire pourquoi intégrer ces pays-là, puisqu'ils nous rendent de sacrés services quand même.
Bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, je partage l'avis de Pierre Mirel, on est vraiment du même avis aujourd'hui, c'est assez admirable.
C'est
pas toujours le cas, forcément, non, mais c'est très bien.
Mais j'espère qu'il apparaîtront les divergences à un moment, alors.
Bien évidemment, il aurait fallu quelque chose qui aurait ressemblé à un plan Marshall dès le début des années 2000, dès la fin des guerres. C'est rétrospectivement, ça semble une évidence. Je crois qu'il y a une autre illusion que dont on paye aujourd'hui les conséquences. L'une, c'était de penser que ce libéralisme allait rayonner, ruisseler naturellement. Et puis l'autre, c'est le modèle de développement néolibéral strict qui a été imposé, reposant sur un seul couple, privatisation et investissements étrangers. Les investissements étrangers ne sont quasiment jamais venus, et les privatisations, ça a été les copains et les cousins des gens au pouvoir qui en profitaient. C'est ce modèle-là qui pose aujourd'hui problème. Les rares investissements étrangers qui arrivent dans les Balkans, qui sont arrivés depuis 20 ans, c'est dans des secteurs très particuliers, comme la téléphonie mobile, par exemple, ou les banques, où, grosso modo, on fait du cash dans les Balkans, mais il n'y a aucun transfert de technologie, il n'y a aucun développement lié à l'arrivée de ces entreprises étrangères dans les Balkans, qui, au contraire, pompent des devises, de l'argent, du cash, présent dans les sociétés de la région. Pourquoi est-ce que les banques françaises ont été beaucoup dans les Balkans? C'est tout simplement parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés dans les Balkans qu'ils ne le sont en France. C'est pour faire du cash rapidement. Il n'y a aucune autre raison. C'est pas du développement, tout ça. C'est autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement cet exode qui ne cesse de s'accentuer. Moi, je mets un point de départ à peu près à 2014. 2014, donc 6 ans après la crise de 2008, un moment aussi où se produisent une série d'événements comme l'échec des plénums en Bosnie-Herzégovine, qui était véritablement une tentative de révolution citoyenne et sociale, les deux étant liés, et qui ont échoué. Et à ce moment-là, les gens se sont dit, eh bien voilà, rien ne pourra changer. Les gens qui partent, c'est pas forcément les plus pauvres. Ceux qui partent, c'est des gens qui ont souvent un capital matériel pour payer leur voyage, ou un capital intellectuel, qui ont un métier, qui ont des compétences, et qui trouvent du coup relativement facilement de l'embauche en Allemagne, en Autriche ou ailleurs, aux États-Unis ou beaucoup plus loin encore. Ces gens qui partent ne partent pas parce qu'ils seraient à la limite de la survie. Ils partent parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas que leurs enfants grandissent dans cette incertitude permanente qui a été la leur durant toute leur vie. Alors, que font les dirigeants des pays des Balkans? Mais ils sont très contents de ces départs. Tous, depuis les dirigeants serbes aux dirigeants bosniens, en passant par les Albanais et les autres. Pourquoi? Pour deux raisons extrêmement simples. C'est que d'une part, ça fait baisser le chômage. Moi, j'ai travaillé, j'ai enquêté notamment en Bosnie-Herzégovine. Oui, vous allez à Tuzla, les gens du bureau du chômage vous disent, bah oui, le chômage, il a baissé. Effectivement.
Donc, c'est que nos politiques sont extrêmement efficaces.
Non, les gens du bureau du chômage sont à dupes. Ils le savent très bien. C'est parce que les gens s'en vont, ne sont plus inscrits. Ouais. Et les politiciens sont d'autant plus contents que des gens qui partent sont des gens qui pourraient voter contre eux, sont des gens qui pourraient être porteurs de changement. Et si ces gens s'en vont, une fois qu'ils sont installés à l'étranger, ils vont pas voter dans les diasporas, dans les ambassades ou les consulats, ou extrêmement peu. Donc, encore une fois, on en revient à cette stabilité merveilleusement assurée par cet exode massif. Et pour le coup, cet exode massif, c'est vrai. Alors, en France, on a une vision un petit peu déformée des choses parce qu'on a une situation de l'emploi et des politiques migratoires très particulières. Mais dans des pays comme l'Allemagne, où il y a des besoins structurels énormes de main-d'œuvre, on se réjouit effectivement de cette arrivée des gens des Balkans.
Pierre Mirel, je vais vous laisser poursuivre sur cette idée, mais je voudrais quand même introduire la question de la Macédoine du Nord, qui est importante parce qu'on va bientôt parler du Kosovo. Le temps avance et je voudrais aussi qu'on s'attarde un instant sur la Macédoine du Nord, qui est un exemple important, qui a son statut de candidat à l'adhésion depuis 2005. Pendant longtemps, on sait, il y avait cette obstruction de la Grèce en raison de son nom qui posait problème. Or, il se trouve qu'il y a quelques mois, en juin dernier, on a réussi à trouver un accord avec le chef du gouvernement Zoran Zaïev. Maintenant, le pays s'appelle la République de Macédoine du Nord. Alors, est-ce que cette évolution, qui était importante, qui était indispensable pour faire lever ce veto grec, est-ce que ça ouvre de réelles perspectives d'adhésion? Et puis, on va regarder aussi peut-être en particulier le bilan de Zoran Zaïev pour regarder ce qu'il a fait pour aller sur ce chemin de l'intégration et si ça a eu un effet bénéfique sur les réformes politiques. Pierre Mirel.
Oui, alors moi je pense que le prochain Conseil européen ne peut pas une nouvelle fois, pour la troisième fois, refuser d'ouvrir les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord. Je ne crois pas. On va voir ce que la Commission propose pour réformer le processus. Peut-être que la décision ne sera pas prise en mars, mais certainement en vue du sommet de Zagreb au mois de mai. Mais je pense que les négociations seront ouvertes. On ne peut pas faire autrement. Alors, est-ce que...
Pourquoi on ne peut pas faire autrement? Parce que l'effort concédé par la Macédoine, qui est maintenant la Macédoine du Nord, est trop fort.
Oui, parce que tout de même, qu'un pays accepte de changer son nom, le nom du pays, formellement, pour honorer en quelque sorte une promesse que l'Union européenne a faite il y a maintenant très longtemps.
Sachant que ses citoyens y étaient majoritairement opposés.
Ah oui, ça a été extrêmement difficile. Le Zaïf s'est engagé lui-même, c'était très difficile. Alors. Ça, c'est le point fondamental et qui justifie, à mon sens, l'ouverture des négociations d'adhésion. Les autres réformes c'est beaucoup plus difficile. La mise en place d'un procureur spécial contre la corruption, ça ne s'est pas fait facilement. Le procureur ou la procureure, en l'occurrence, a même été accusé de corruption et a changé, etc. Bon, tout ça, ça n'est pas simple. Mais je pense qu'à partir du moment où on ouvrirait les négociations d'adhésion et où on changerait non seulement la méthode, mais l'approche même des négociations, en politisant les choses. Pour reprendre ce que Jean-Arnaud Derrin disait, un processus trop peut-être bureaucratique, artificiel en ce moment, s'il est changé et si l'on vient justement avec une idée fondamentale qui est l'objectif, on garde l'objectif de l'adhésion, hein, à moyen, long terme, mais comme premier objectif, que la Macédoine du Nord et les autres intègrent le marché intérieur de l'Union. Ce sera un effet à la fois, j'espère, d'entraînement pour des investissements, et puis un effet psychologique, c'est-à-dire que les citoyens de ces pays, enfin, croiraient aux promesses faites il y a 17 ans maintenant par l'Union européenne.
Jean-Arnaud de Reims, est-ce que vous partagez l'espoir de Pierre Mirallès? Visiblement, il y a un petit différent qui pointe le bout de son nez.
Oui, là pour le coup, je vais pas être d'accord avec Pierre Mirallès sur un point. Non, ouvrir, intégrer la Macédoine du Nord ou n'importe quel pays de la région dans le marché européen, non, ça serait une catastrophe.
Pourquoi?
Qu'est-ce que produit la Macédoine? Fondamentalement, elle a un secteur agricole qui marche à peu près. Bon, vous ouvrez totalement le marché, ça veut dire que partout en Macédoine, vous aurez du beurre allemand et des œufs hollandais.
Il est ouvert.
C'est déjà largement le cas, effectivement. Mais une ouverture des marchés entre des pays qui sont petits avec des économies faibles, c'est totalement injuste.
On peut pas penser que ça pourrait attirer les investisseurs.
Mais les marchés sont ouverts.
Mais non.
Les marchés sont totalement ouverts.
Déjà.
Il n'y a plus de droits de douane en Macédoine.
Certes. C'est une partie du problème. Mais je pense en tout cas que c'est pas là que peut se trouver la solution. Il faudrait un autre modèle de développement avec des investissements dans les infrastructures significatifs.
Mais ça, c'est un paquet global avec ce que je propose depuis déjà deux ou trois ans. Un véritable paquet d'investissements, non seulement des infrastructures, transports, etc., surtout pour éviter que les Chinois ne le fassent à notre place, mais aussi infrastructures sociales, services de santé, services d'éducation.
C'est sûr. Là, je vous approuve entièrement. En sachant que le problème, c'est tout de même qu'aujourd'hui, dans tous les pays de la région, il n'y a plus de personnel de santé. Les infirmières et les médecins, ils sont déjà... Les infirmières ou les médecins croates vont faire la saison en Croatie l'été parce qu'il y a des touristes. Sachant qu'en Croatie même, tous les médecins et toutes les infirmières partent travailler en Allemagne ou ailleurs à l'Ouest. Donc là, on est dans une situation d'urgence vitale sur tous ces domaines-là. Peut-être même est-il déjà trop tard par beaucoup d'aspects pour inverser la tendance.
Il y a une question qu'on ne s'est pas posée à propos de la Macédoine du Nord. Est-ce que les gens ont envie d'intégrer l'Union européenne? Parce que vous parliez tout à l'heure de la Croatie. À l'époque de l'intégration, la Croatie, on était très très enthousiastes. Quand on regardait les sondages, 85% des Croates avaient envie d'intégrer l'Union européenne. Aujourd'hui, on a un euroscepticisme très fort qui est monté du côté de la Croatie. Est-ce que en Macédoine du Nord, on a quelque chose aussi du même ordre? Alors, je sais bien que précisément rester à la marge peut préserver cette envie, mais pas forcément.
Je crois qu'il faut prendre ces sondages avec beaucoup de prudence. Par exemple, moi je dis souvent, les Bulgares et les Roumains sont rentrés en 2007 dans l'Union européenne avec de grandes espérances. Et effectivement, ils ont été déçus, pas seulement à cause de l'Union. Pour le coup, le calendrier ne leur a pas été favorable, ils sont rentrés dans l'Union juste un an avant l'éclatement de la crise mondiale. Les Croates sont rentrés dans l'Union en 2013 avec beaucoup moins d'espérance, beaucoup moins d'illusions. Du coup, ils ont été moins déçus, puisqu'effectivement, ça n'a pas changé grand-chose dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, si l'on prend tous les pays de la région, si vous posez la question à un Albanais, un Macédonien, un Serbe, pourquoi est-ce qu'il vous dirait qu'il est contre l'Union européenne? Ça n'a pas de sens. Bien évidemment qu'il est pour. D'ailleurs, les gens sont tellement pour que là, d'attendre le Godot européen, ils prennent leur sac et leur voiture ou un billet de train ou d'avion, et ils vont directement en Europe, puisque l'Europe ne vient pas à eux. Mais bien évidemment, vous posez la question, les gens vont toujours vous dire qu'ils sont favorables.
Ouais, peut-être pas du côté de la Serbie, Jean-Arnaud de Reims.
Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont favorables. Alors les sondages, ça varie, je crois pas que ça soit toujours très significatif. Bon. Mais bien évidemment, les gens sont a priori, n'ont pas de raison d'être contre. Par contre, les gens ne voient plus du tout ce que l'intégration pourrait signifier. Prenez la Serbie. Il s'agit pas d'invoquer la Russie ou que sais-je, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous prenez aujourd'hui les salaires moyens en Bulgarie, pays membre de l'Union européenne depuis 13 ans, et dans la Serbie voisine, qui n'est toujours pas membre de l'Union européenne, eh ben les salaires sont plus élevés en Serbie. Donc les gens se demandent pourquoi diantre rejoindre cette Union européenne si c'est pour se retrouver comme les Bulgares.
On parlera de la Serbie tout à l'heure, après avoir parlé du Kosovo, ça sera dans un instant. Mais d'abord, Pierre Mirel, je veux vous entendre sur cette envie d'Europe du côté de la Macédoine du Nord. Et puis ensuite, on accueille Sébastien Gricourt.
Mais tout, comme Jean-Arnaud le disait, dans tous les pays, franchement, quels sont les citoyens qui vont dire on ne veut pas adhérer à l'Union européenne? Bien sûr, il y a une véritable, un véritable souhait d'adhérer, avec ce mythe peut-être de dire ça va être une sorte de paradis qui va s'ouvrir. Ceci dit,
ça les gens n'y croient plus.
Non, mais ceci dit, lorsque les Macédoniens ou autres Serbes regardent la Hongrie et la Pologne, qui reçoivent entre 3,5 et 4% du PIB, de leur production intérieure brute, par les fonds structurels, que les infrastructures se développent, etc. Bon, il y a tout de même une partie du rêve qui se réalise. Il ne faut pas négliger ça, y compris les infrastructures sociales dans ces pays. Donc ça fait partie de ça. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vu grand-chose, effectivement.
On est avec vous, Pierre Mirel, et vous, Jean-Arnaud de Reims, dans cette série consacrée aux confins de l'Europe. Aujourd'hui, on parle des Balkans et on va parler du Kosovo, qui n'a pas encore le statut de candidat et qui ne pourra l'espérer qu'après la reconnaissance de son indépendance par Belgrade. On en parle dans un instant.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Dans les rues de la nouvelle capitale du Kosovo proclamée indépendant, on découvre le nouveau drapeau. Il porte les mêmes couleurs que celui de l'Union européenne. Certains pleurent, s'embrassent, les pétards, les feux d'artifice fusent dans tous les sens.
Nous avons l'information que la France va reconnaître, que ce sera le premier pays qui va reconnaître l'indépendance du Kosovo.
Merci.
C'est encore difficile à croire que nous ayons l'indépendance. C'est vraiment une grande émotion, un moment formidable. Je sais que nous aurons des problèmes, en particulier avec les Serbes, parce qu'ils n'ont pas reconnu cette nouvelle nation. Mais je pense qu'avec le temps, ils finiront par accepter cette vérité sur le Kosovo.
Oui, on pense que c'est quelque chose de très bien pour nos enfants, parce que ça va leur offrir quelque chose, un avenir.
Alors, des problèmes avec les Serbes, c'est certain, 12 ans après la déclaration d'indépendance, mais aussi des problèmes internes, si on regarde les dernières élections d'octobre dernier, où on a mis énormément de temps à former un gouvernement jusqu'à ce qu'on y parvienne, finalement, le week-end dernier. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de tout cela? En quoi est-ce que ça ouvre peut-être de nouvelles perspectives de dialogue avec le voisin serbe? Est-ce que ça permettra peut-être à l'Europe de reprendre aussi la main face à une administration américaine qui a engagé de nouvelles offensives diplomatiques dans la région? Et puis, on va regarder où en sont évidemment les efforts de normalisation des relations entre Pristina et Belgrade, un préalable évidemment à toute perspective d'adhésion pour les deux. Bonjour Sébastien Gricourt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la Fondation, de l'Observatoire des Balkans de la Fondation Jean Jaurès. D'abord, un mot sur cette actualité, parce que je le disais, il y a eu donc ces élections anticipées en octobre dernier, qui ont vu la victoire du parti Autodétermination de gauche d'Albin Kurti. Pendant des semaines, on ne parvenait pas à se mettre d'accord. Et puis finalement, il y a quelques jours, on a fait une coalition avec le parti qui est arrivé deuxième, le Parti démocratique, qui est lui un parti de centre-droit. Comment est-ce qu'on a pris cette annonce du côté du Kosovo? Est-ce que l'espoir renaît? Est-ce que le scepticisme est toujours là? C'est important, cet événement, Sébastien Gricourt.
Alors, tout à fait. C'est évidemment d'abord un soulagement après presque 4 mois de tractation. Mais enfin, il faut quand même aussi relativiser. C'est pas la première fois que cela dure aussi longtemps. C'est un peu la spécificité aussi d'un système politique et électoral qui fait qu'il n'y a pas de gouvernement sans coalition qui souvent se fait entre partis qui sont incompatibles entre eux. Je rappelle, c'était la 5e élection en 12 ans et c'était la 4e et auparavant, donc c'était le 4e gouvernement qui ne termine pas son mandat de 4 ans. Bon, finalement, grosso modo, si on relativise par rapport à des expériences précédentes, presque 4 mois de tractation, c'est pas si mal que ça. C'est vrai qu'il y aurait eu déception s'il y avait eu un échec et s'il avait fallu voir remettre en fait en lice les anciens acteurs du jeu politique. Néanmoins, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'immaturité politique. Ils ont quand même réussi à avoir un accord entre deux partis un peu incompatibles. Le mouvement Autodétermination, qui était donc dans l'opposition depuis longtemps et qui pour la première fois prend les rênes, avec un projet assez sérieux, notamment lié sur le dialogue.
Et puis justement, il va falloir nous dire ce que c'est ce projet, parce que c'est le cœur de la question, le dialogue avec la Serbie. C'est quoi son idée du dialogue avec Albin Kurti?
Et pour l'Union européenne, évidemment. Je pense pas qu'il faut s'attendre à de grandes mesures dès le départ, à part le fait qu'il va falloir rappeler un principe auquel tient le mouvement autodétermination, qui est celui de finalement de faire un dialogue qui commence aussi à inclure les Serbes du Kosovo. Jusqu'à présent, le problème de ce dialogue, c'est est-ce qu'il a été, finalement dirigé avec la médiation européenne à Bruxelles, entre deux présidents, entre deux premiers ministres, derrière les rideaux, avec des accords dont on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, dont on entendait deux versions différentes à Belgrade et à Pristina. Or, cette fois-ci, l'idée, c'est un peu de renverser la façon dont est mené le dialogue en incluant vraiment tous les Serbes du Kosovo et surtout, pour le gouvernement du Kosovo, se dégager d'un parti serbe, la liste serbe, qui est en fait un parti à cheval de Troie créé par Belgrade et qui a réussi plusieurs fois à bloquer les processus. Le gouvernement, donc, a été élu officiellement hier. Donc, l'accord entre les deux parties a eu lieu dimanche. Et là, il y a à peine une demi-heure que le nouveau Premier ministre est officiellement en place. Ce gouvernement est finalement plus fort que les précédents puisque finalement la liste serbe, il n'a pas eu besoin de faire des compromis avec la liste serbe qui est vraiment dans l'opposition.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, Sébastien Gricourt, que l'on peut croire à une normalisation avec la Serbie? Ça va mettre du temps évidemment, mais est-ce que là on a les conditions qui sont rassemblées?
Non, je pense que ce qu'il va y avoir surtout, c'est une première phase où le Kosovo va vouloir rétablir un certain équilibre dans la relation avec Belgrade par rapport au dialogue. Notamment, d'emblée, ça a été dit dans le discours d'hier, rétablir la question des crimes de guerre qui ne sont pas traités, en tout cas vu du Kosovo, qui ne sont pas traités de façon égale par rapport à des crimes de guerre commis par des Serbes, des paramilitaires au nom de l'État serbe à l'époque qui n'auraient pas été jugés de façon égale par rapport à ce qui se fait déjà vis-à-vis de crimes de guerre commis par l'ancienne guérilla. Ça, c'est un exemple.
Alors, je vais formuler une hypothèse, Sébastien Gricourt. J'entends que vous, vous avez pas mal de doutes sur la possibilité d'une normalisation, en tout cas à moyen terme. Il y aura d'autres priorités. Faisons l'hypothèse que normalisation il y a entre Pristina et Belgrade, que la Serbie reconnaît le Kosovo. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne serait prête à intégrer le Kosovo dans ces conditions ?
Je pense que d'abord, il y a tout un parcours à respecter, des critères à respecter.
Bien
pour
sûr.
Le coup, la Serbie est sur le papier, en tout cas, beaucoup plus en avance que le Kosovo dans le processus d'intégration. Je pense qu'à terme, le plus raisonnable serait que les deux intègrent en même temps, pour éviter que le premier qui entre bloque le second. Je pense que c'est au fond l'intention européenne. Pour l'instant, et j'ai pas écouté l'émission au début, mais je suppose qu'on a parlé du processus d'intégration, de la méthodologie qui est revue. Donc je pense que ça risque de prendre aussi du temps. Donc c'est pour cela que je m'attends à rien à moyen terme, sinon une volonté de rétablir l'équilibre dans la relation, dans ce dialogue. Et puis de toute façon, du côté de Belgrade, on n'en est pas encore à un régime démocratique avec des forces qui ont envie d'entendre parler du Kosovo.
Encore une question et puis ensuite je passerai la parole à Jean-Arnaud de Reims et à Pierre Mirel pour les faire réagir. Parce que il y a un acteur qu'on n'a pas encore introduit mais qui pourtant est en train de monter en puissance du côté du Kosovo, c'est les États-Unis. Washington a lancé un certain nombre d'initiatives diplomatiques avec visiblement des résultats puisqu'il y a quelques jours, on nous a annoncé la mise en place d'une liaison aérienne entre Belgrade et Pristina. Bientôt une liaison ferroviaire et tout ça visiblement c'est le produit des efforts qui viennent de l'administration américaine. Alors comment comprendre cet intérêt assez soudain de l'administration américaine actuelle dans la région? Pourquoi est-ce qu'on cherche à aller vers une normalisation des relations avec la Serbie? Quel est l'intérêt de Washington? Alors, et en quoi ça pose problème à l'Europe?
Tout à fait. Alors tout d'abord, comme les États-Unis, comme la Russie ou la Chine ou même la Turquie, enfin profitent aussi du vide que laisse l'Europe et ses faiblesses européennes. Ça, c'est une chose. Ceci dit, moi, je relativiserais aussi beaucoup ces accords qui auraient été, qui vont remettre au travail une ligne aérienne et aussi une ligne de chemin de fer. Pour l'instant, on n'a qu'un accord sur papier. Du côté américain, il y a évidemment un enjeu électoral du côté de la Maison-Blanche de prouver que Trump serait un acteur de paix. On a vu ça avec ce qui est le prétendu accord de paix au Proche-Orient. On a vu ce qu'il est advenu de la tentative avec la Corée du Nord. Je ne parle pas de l'Iran, etc. Donc ça ne fait que faire partie des différents dossiers où Trump veut se présenter comme un faiseur de paix. Maintenant, les États-Unis sont en réalité sur...
Sauf pardon, il y a quand même une différence, Sébastien Gricourt, avec l'Iran, par exemple, que vous preniez. Visiblement, les Américains sont prêts à faire des efforts financiers.
Oui, bon, ils en font depuis longtemps des efforts financiers. Pas non plus, il y a un grand investissement américain depuis toujours au Kosovo, dans la région.
Ça change
même
pas.
Si au niveau des chiffres, je pense que les Européens sont au-dessus en réalité, mais ça, c'est l'Europe qui ne sait pas vendre ses investissements, c'est autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est que les Américains sont aussi divisés. Ils ont deux acteurs différents. Celui qui a fait cet accord est en fait l'ambassadeur allemand, qui est nommé directement par Trump. qui est assez anti-européen d'ailleurs, et qui a une mission, celle du dialogue entre la Serbie et le Kosovo. Autant dire que cela se fait en réalité dans le dos de l'Union européenne. Il y a aussi un envoyé spécial du département d'État, Matthew Palmer, qui est l'envoyé spécial pour les Balkans. Je ne suis pas certain qu'ils ont une ligne commune et un franc dialogue entre ces deux acteurs américains. Ensuite, il y a sur le papier une bonne relation entre Washington et Bruxelles sur les Balkans. Ils ont un intérêt final qui est à peu près le même. La réalité, c'est que cette action américaine pour deux accords qui, pour l'instant, n'existent que sur le papier, je ne suis pas sûr que cela se fasse en accord avec Bruxelles.
Alors, je vais faire réagir Jean-Arnaud de Reims et Pierre Mirel. On va commencer avec vous, Jean-Arnaud de Reims, sur ce cas Kosovo.
Ben alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien Gricourt par rapport aux États-Unis déjà, il faut bien comprendre qu'en réalité, le Kosovo, bon, c'est un tout petit pays financièrement. On pourrait plaquer toutes les rues du Kosovo en or massif, ça coûterait pas grand-chose. C'est un petit pays avec pas beaucoup d'habitants. Par contre, c'est un enjeu symbolique majeur. Et c'est le drame du Kosovo. Le Kosovo, il n'y a pas de pétrole, mais il y a cet surinvestissement idéologique, symbolique, que le Kosovo paye chaque jour en réalité. De tous côtés. Aussi bien du côté de la Serbie, bien sûr, mais aussi du côté des internationaux qui ont quand même fait la guerre pour, entre guillemets, le Kosovo. Donc il y a un surinvestissement de cette question du Kosovo. Concrètement, il est évident aujourd'hui que l'administration Trump veut un accord sur le Kosovo. Et là, je partage entièrement ce que suggérait Sébastien. Bien évidemment, c'est à relier au fameux plan Trump sur la Palestine et Israël. Il s'agit de dire, voilà, vous ne voulez pas, vous, méchants Palestiniens, accepter ce plan de paix. Regardez, les Kosovars et les Serbes ont accepté un plan de paix. Donc, ça prouve que nous sommes capables de faire des bons plans de paix. Il faut que le Kosovo ait une valeur démonstrative. C'est uniquement pour cela. Je pense qu'après, bien évidemment, le président Trump ne se réveille pas tous les matins en pensant au Kosovo, mais uniquement, il a compris qu'il pouvait peut-être, à bas coût, ça coûte pas très cher, marquer un coup politique et créer un exemple dans le cas du Kosovo. C'est pour ça que effectivement, les États-Unis sont complètement revenus depuis l'automne dans les Balkans et singulièrement dans cette question du dialogue Kosovo-Serbie, en sachant que l'Europe est effectivement aux abonnés absents, alors pour deux raisons. À cause, fondamentalement, du différend franco-allemand, mais il y a d'autres facteurs peut-être moins importants. Enfin, quand même, avoir choisi comme responsable de la politique étrangère européenne Josep Borrell, qui est issu d'un pays, l'Espagne, qui ne reconnaît pas le Kosovo comme un État indépendant, on va dire que c'est pas le plus pratique. Et effectivement, on sait très bien qu'en castillan, Kosovo, ça se prononce Catalogne. Et c'est pour ça que Josep Borrell ne reconnaît pas le Kosovo. Ce qui affaiblit quand même beaucoup sa position. J'ajouterai encore un autre mot. Ça, c'est du point de vue américain ou du point de vue européen.
Et après, je passe la parole à Pierre Mirel.
Hein, mais il y a une autre grande question.
C'est pas parce qu'il est pas là qu'il n'a pas le droit de parler.
Certes, tout à fait. Mais juste rapidement, si vous le permettez, quand même un petit mot. Du côté de la Serbie, quel serait l'intérêt à conclure un accord sur le Kosovo? Je vais être très franc, aucun.
Intégrer l'Union européenne.
Mais bon, alors oui, bien sûr, en théorie, ça serait ça. Mais il est clair que c'est pas pour demain. Ce que vient de dire Sébastien, l'idée que les deux pays puissent un jour rentrer ensemble, oui, ça paraîtrait de bon sens. Mais c'est clairement ni pour demain, ni pour après-demain, ni pour les prunes, ni pour les fraises. Donc, dans ces conditions-là, concrètement, qu'est-ce que le président Vučić peut attendre du Kosovo? Et dans le cas du président serbe Aleksandar Vučić. Et là, on est véritablement, totalement dans une approche manipulatrice du Kosovo. Parce qu'effectivement, ce président n'a rigoureusement rien à faire, pour commencer, du sort de la population serbe qui vit au Kosovo. Le Kosovo, c'est uniquement son arme de dissuasion. Pourquoi est-ce que Vučić est au pouvoir avec la tolérance, la bienveillance des Européens depuis des années? Parce que c'est le bad guy, c'est le caïd, le rouleur de mécanique qui a dit « Attention, moi je peux vous faire un accord sur le Kosovo. Parce que moi, je connais les méchants, moi je viens de chez les méchants, donc je suis capable de calmer mes gars. »
Il vient effectivement
de l'extrême droite nationaliste.
Ultra-nationaliste,
moi je suis capable de calmer mes gars et de vous faire un accord. C'est ça le crédit, comment dire, la rente sur laquelle est assis Aleksandar Vučić. Mais il est bien évident qu'Aleksandar Vučić n'a aucun intérêt à dilapider cette rente. Il faut que la question du Kosovo, du point de vue de Vučić, dure le plus...
Maintenir le statu quo,
que la question dure le plus longtemps possible.
Pierre Mirel, je vous donne la parole, c'est à vous sur le Kosovo. Est-ce que vous abondez dans le sens d'une instrumentalisation par la Serbie de cette question et aussi peut-être l'incapacité de l'Europe à se mettre d'accord sur ce sujet?
Tout à fait d'accord que le Kosovo est instrumentalisé par, non seulement par le président Vučić, mais aussi par son opposition elle-même, qui finalement s'empare maintenant de ce dossier pour refuser une certaine forme de dialogue, etc. Mais une chose sur le Trump, bon, Trump veut sans doute faire un coup politique, Mais n'oublions pas que le Kosovo, en fait, c'est un protectorat américain. C'est un protectorat. Pardon. C'est un protectorat depuis son indépendance. C'est l'Amérique qui a poussé très fortement à cette déclaration d'indépendance, qui soutient. Il y a une base américaine importante. Les Américains ont un intérêt aussi stratégique à cette base de Bandel. Ils viennent d'ailleurs de donner 150 millions de dollars au Kosovo pour développer l'armée, etc. Donc c'est pas nouveau. Au-delà du coup politique, il y a une véritable présence américaine. Côté européen, le dialogue s'était très bien engagé au début en 2011 sur des questions très concrètes, l'énergie, télécommunications, etc. Et puis il a déraillé parce qu'on a perdu l'idée de dire le dialogue doit profiter aux citoyens, doit engager les deux pays dans des relations différentes. Et on a fait une sorte de facilitation à la légère au lieu d'avoir une véritable médiation avec un suivi sur la mise en œuvre. Moi, je pense aussi que ça prendra très longtemps. Ça prendra très longtemps avant. Et d'ailleurs, il y a eu pendant longtemps, côté Commission européenne, en tout cas, on pensait que la reconnaissance du Kosovo par la Serbie viendrait totalement, tout à fait à la fin du processus d'adhésion de la Serbie. Et d'ailleurs, qu'il pourrait y avoir non pas une reconnaissance, mais un peu le système qu'on a connu avec les deux Allemagnes, c'est-à-dire accepter le Kosovo aux Nations Unies, sans pour autant le reconnaître. Il y a une accélération depuis 2 ans. Parce que Madame Mogherini voulait, ancienne haute représentante à Bruxelles, voulait sans doute marquer un succès diplomatique. Et puis, côté américain, cette surenchère de l'autre côté. Moi, je pense que ça prendra très longtemps et que l'intérêt dans l'immédiat, c'est d'abord et avant tout que les citoyens participent, que la société civile, qu'il y ait un véritable engagement, qu'il y ait un développement aussi des échanges entre les deux pays. Les chambres de commerce des deux côtés sont totalement en faveur. Elles sont bridées par les politiciens, mais sinon il y a une possibilité de se développer. Et il y a une chance avec ce Premier ministre Kurti. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de sang sur les mains. Il n'est pas corrompu, il n'a pas de sang sur les mains, il n'a pas participé à la guerre. Je pense que les négociations avec lui seront extrêmement difficiles pour Belgrade, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'engagera, sera capable de mettre en œuvre les promesses faites, contrairement aux différents partis politiques et gouvernements depuis 2008.
Jean Audin, si vous vouliez réagir, et puis ensuite je voudrais peut-être nous éclairiez sur l'acteur russe, qui est peut-être au fond le grand vainqueur de tout cela.
Alors, par rapport déjà tout de même à ces négociations entre la Serbie et le Kosovo, depuis 2 ans, à peu près 1 an et demi, on avait beaucoup parlé de quelque chose qu'on a un petit peu oublié, mais qui reste toujours présent en arrière-fond, c'est l'idée d'échanges territoriaux. Et cette idée d'échanges territoriaux, elle est partie des États-Unis, elle est partie de l'administration Trump, elle a bien évidemment d'ailleurs pour le coup reçu le soutien tacite mais enthousiaste de Vladimir Poutine. Parce que lui, quand on parle d'échanges de territoire entre la Serbie et le Kosovo, ça lui plaît forcément puisqu'il pense à la Crimée. C'est naturel. Cette idée a été enterrée parce qu'elle est rejetée aussi bien par la grande majorité de la population serbe que par la population surtout du Kosovo. Dans le discours d'investiture d'Albin Kurti hier, il a bien dit d'ailleurs que le dialogue devrait repartir, mais en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale du Kosovo. Donc c'est a priori pour lui, pour l'instant, une ligne rouge à ne pas franchir. On ne parle pas d'échanges territoriaux. Mais cette idée est toujours présente, notamment du côté américain. Elle avait reçu un soutien, sans trop le dire, mais de fait de la France, et c'est aussi là qu'a commencé à se creuser ce différend franco-allemand sur les Balkans, cette idée extrêmement dangereuse, c'est de la politique de gribouille, cette idée-là est toujours présente et je pense qu'elle va ressurgir, on verra bien comment le gouvernement du Kosovo, avec la souveraineté objectivement limitée qui est la sienne, je partage le constat de Pierre Mirel sur le fait que c'est un quasi-protectorat américain, mais enfin Albin Kurti va sûrement essayer un petit peu de desserrer cet étau, je ne sais pas s'il y réussira, on verra bien comment le Kosovo réagira à cela, mais il est certain que cette idée va ressurgir. Et là encore, quand l'administration de Trump va la relancer à propos du Kosovo, ça sera bien évidemment en pensant à beaucoup d'autres situations dans le monde. L'administration de Trump pensera sûrement à la Palestine et Israël, quand Poutine, lui, pensera pour le coup à la Crimée.
Sébastien Grécourt, tout dernier mot, on arrive presque au terme de cette émission, vous voulez réagir ?
Oui, mais écoutez, je partage tout à fait les derniers propos de Pierre Mirel et de Jean-Arnaud Derrinse. Pour revenir donc sur ce nouveau gouvernement, je crois que c'est vraiment l'espoir qui domine aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un leader, un nouveau Premier ministre qui n'est pas corrompu, qui est engagé politiquement, qui va être un interlocuteur difficile aussi pour Bruxelles et pas que pour Vučić. Il a ses conditions. Je pense que surtout, c'est l'état de droit va être une de ses priorités. Pour cela, il va pas avoir une coalition effectivement facile à gérer, mais encore une fois, il n'y a jamais eu de coalition facile. Puisque la LDK, dans son partenariat avec la LDK, il a quand même la vieille garde qui a tout fait pour empêcher qu'il y ait un accord, en réalité, au nom du partage des prébendes qui existe depuis longtemps entre la LDK et le PDK, dont le président du Kosovo, sont partagés un certain nombre d'intérêts, disons, économiques, pour le dire de façon soft. Donc il va y avoir toute une priorité sur l'état de droit où vraiment le Premier ministre est attendu. En même temps, ils peuvent compter aussi à la LDK sur la partie réformatrice de la LDK, dont celle qui était tête de liste et qui aujourd'hui est une jeune femme qui prend la tête de l'Assemblée. Et je pense que ça va faire du bien aussi à la classe politique et également à la LDK. Donc je suis vraiment curieux, nous sommes tous curieux de voir comment Albin Kurti va gérer cela. On connaît ses grandes lignes, il sera difficile de négocier avec lui, mais il négocie véritablement, je pense, pour le bien de toute la société.
Jean-Arnaud de Reims, un tout dernier mot, une minute, il nous reste vraiment très peu de temps, mais il y a un certain nombre d'acteurs dont on n'a pas parlé et dont on dit parfois qu'ils ont de l'influence, beaucoup d'influence dans ces Balkans. Je pense à la Chine, je pense aux pays du Golfe. Est-ce qu'on fantasme ou est-ce qu'il y a aussi cela sur qui il faudra compter demain?
Non, bien sûr qu'on ne fantasme pas parce que la nature a peur du vide. Les Européens ne font rien, donc les Chinois, eux, arrivent et investissent réellement. Très sérieusement, alors à la chinoise, c'est-à-dire dans des travaux d'infrastructure réalisés par des entreprises chinoises avec des travailleurs chinois et financés par des prêts consentis par la Chine au gouvernement de la région. Donc les gouvernements de la région sont complètement pris au piège. L'autre acteur, bien évidemment, auquel on fait souvent référence, c'est la Russie. Mais là encore, c'est pour la Russie n'investit rien dans les Balkans, elle n'a pas besoin d'investir. Il suffit, elle peut avoir une politique de soft power à moindre coût sans dépenser un copec uniquement du fait de l'abandon des Européens.
Un grand merci à tous nos invités, Sébastien Gricourt qui était avec nous à l'instant par téléphone, qui est directeur de l'Observatoire des Balkans de la Fondation Jean Jaurès. Un grand merci également à Pierre Mirel qui est avec nous en duplex de Chambéry. Grand merci également à vous, Jean-Arnaud de Reims. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Courrier des Balkans, que vous aviez écrit récemment notamment avec Laurent Gélin, là où se mêlent les eaux des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins, et vous y partez justement très bientôt, je crois que c'est dès demain. Merci
dès
beaucoup, Jean-Arnaud de Reims. Et puis un tout petit mot peut-être avant de conclure complètement, parce qu'on a appris ce matin la disparition de notre ancien directeur, David Kessler. C'est vrai qu'il a laissé ici le souvenir d'un homme extrêmement compétent, extrêmement bienveillant. À titre personnel, il m'a permis à moi de faire mes premiers pas à France Culture. Je lui serai éternellement reconnaissant. Donc, pensée sincère à sa famille, à ses amis. Donc, voilà. Et malgré sa disparition, la radio continue d'écrire son histoire. Les ondes continuent de se propager et ils nous conduisent tout de suite, presque 11h53, vers Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Florian et bel hommage.
Merci, bonjour Brice. Les Français, Brice, passent pour l'un des peuples les plus pessimistes du monde. Pour autant, nous n'avons pas le monopole du biais de négativité. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le biais de négativité?
Et bien, depuis la publication par Paul Rosin et Edward Rosiman de leur article Negativity Bias dans la revue savante américaine Personality and Social Psychology Review en 2001, l'expression biais de négativité est devenue un poncif de la psychologie sociale. Alors, de quoi s'agit-il ? De notre tendance spontanée à surévaluer ce qui nous arrive de fâcheux au détriment des récompenses dont nous gratifient également nos vies. À retenir davantage les mauvaises nouvelles que les bonnes. Les expériences menées par diverses équipes de psychologues l'ont confirmé depuis, une perte nous affecte bien davantage que le gain équivalent. Les économistes ont d'ailleurs intégré cette donnée et ils l'utilisent dorénavant pour leurs prévisions. Pour les darwiniens, l'origine de ce biais de négativité serait à chercher du côté de la vie difficile de nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs. Ceux qui se méfiaient des baies, parfois d'ingestion mortelle, ont survécu davantage que ceux qui ne se fiaient qu'à leur goût agréable, et cet acquis s'est transmis à leurs descendants. Aujourd'hui, alors que notre vie est infiniment plus facile et moins dangereuse, cette disposition soupçonneuse serait devenue non seulement inutile, mais elle nous gâcherait la vie. Nous avons la chance de vivre dans une époque bénie, de bénéficier d'avantages dont nos ancêtres n'auraient pas rêvé, et nous nous croyons menacés des pires calamités, d'où des réactions parfois inappropriées. C'est la thèse soutenue par les auteurs d'un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « The Power of Bad and How to Overcome It », le pouvoir du négatif et comment le surmonter. Pour ses auteurs, l'essayiste John Turney et le professeur de psychologie Roy Baumeister, il nous faut prendre conscience de ce biais de négativité afin de le compenser. Or, il est omniprésent. Je cite « Du matin au soir, nous sommes assaillis par les marchands de malheur. Politiciens et journalistes ciblent nos émotions primaires par un battage sur les menaces censées nous environner, qu'elles proviennent de la nature, de la technologie, des étrangers, du bord politique adverse, tout ce qui est susceptible de déclencher les circuits d'alarme de notre cerveau. » Fin de citation. Ainsi, le public est-il formidablement informé de mots aussi rares que le syndrome de stress post-traumatique, mais nullement du concept de croissance post-traumatique qui succède à un changement personnel positif. Les psychologues ont pris conscience du problème ainsi créé, et pour contrebalancer le fameux effet du biais de négativité, ils explorent à présent un ratio de positivité. Évidemment, il faut se méfier des manuels de pensée positive qui commencent, comme ils l'ont fait en Amérique du Nord, à envahir les rayons livres de nos supermarchés, comme le développement personnel, c'est de la daube pour les gogos.
Alors oui, d'accord, Brice. Où vivent les gens heureux? Et est-ce qu'on est plus heureux quand on est à droite ou est-ce que quand on est à gauche, Brice?
Oui, et ben ça se mesure, figurez-vous, à coup de sondage. Le Pew Center publie depuis plusieurs années une étude sur le bonheur dans le monde. Les critères sont assez variés pour inspirer confiance, puisque vous y trouvez le PIB par habitant, bien entendu, mais aussi le niveau de protection sociale, l'espérance de vie en bonne santé, le degré de liberté de choisir sa vie, la générosité et le degré d'intégrité perçu du système. Le degré de bonheur dont jouissent les habitants de 156 pays est ainsi évalué tous les ans, et les 10 mêmes pays se disputent le haut du classement depuis des années. Vous allez me dire lesquels? Eh bien, je vous le dis. L'an dernier, le top 10 des gens heureux du monde s'établit ainsi. Premier, la Finlande. Deuxième, le Danemark. Troisième, la Norvège. Quatrième, l'Islande. Cinquième, la Suisse. Viennent ensuite dans l'ordre la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Autriche. Vous me direz que le cliché selon lequel on est plus heureux dans les pays chauds en prend un sacré coup. Et la France? Et la France, me direz-vous, ce paradis où les gens se croient en enfer, selon l'expression fameuse de Sylvain Tesson? Eh bien, nous sommes classés 24e sur 156, toutefois derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Quant à l'influence de la politique sur le bonheur, eh ben, il a également fait l'objet d'études sérieuses et les résultats sont sans appel. Les conservateurs se déclarent en moyenne nettement plus heureux que les progressistes. Selon toujours le Pew Research Center, les conservateurs sont 68% plus heureux que les gens de gauche. À droite, on explique ce bon résultat par la stabilité de la vie personnelle, car les plus forts taux de bonheur privé se concentrent chez les personnes qui sont à la fois mariées, qui ont une pratique religieuse et qui votent à droite. Alors que les célibataires sans religion et de gauche figurent en bas du tableau. À gauche, on l'explique plutôt par l'individualisme et l'égoïsme des conservateurs qui seraient moins atteints que les autres par les malheurs du monde. Mais la bonne explication, c'est celle qui est donnée par les psychologues. Les conservateurs sont plus heureux simplement parce qu'ils ont davantage confiance dans le système. Ils ont la conviction d'avoir prise sur le cours de leur vie et le sentiment qu'ils peuvent améliorer leur sort par leurs propres moyens. À gauche, on en doute et on est plus pessimiste sur ses propres chances.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.